Les choses ont changé. En un seul jour, un seul instant. Le futur est différent de ce qu'on en attendait. On se met à oublier le passé. Ni foule, ni bain de sang. Et pourtant, il y a bien eu une révolution. Si j'essaie de reconstituer les événements, de me souvenir de ce que j'ai vu, d'imaginer ce que je n'ai pas vu, je dirais que les choses se sont passées à peu près comme ça.
L'Apocalypse est notre chance, de Sylvie Coquard-Morel et Sophie Maurer.
C'est notre chance. Troisième épisode.
François Boiron, un homme de l'Élysée, était mêlé à la mort de mon directeur de thèse. Il cherchait à mettre la main sur ses archives, mais c'est moi qui les avais récupérées. En écoutant certains fichiers audio avec Vincent, j'ai été très surprise.
Vous m'avez dit que vous aviez une vie extra-conjugale. Est-ce que vous pourriez préciser ? J'ai une maîtresse et quelques liaisons épisodiques.
On dirait un interrogatoire de police.
En tout cas, c'est pas un travail de recherche.
Il est très important pour moi de savoir quelle est la nature de ces liaisons. Oui, le degré d'intimité que vous partagez avec ces personnes, leur profession.
Je peux pas écouter ça, c'est glauque. Ça a été l'une des pires nuits de ma vie. Toute une nuit devant l'ordinateur à fouiller dans les fichiers de Luc. À écouter des enregistrements. Toute une nuit à me demander qui il était vraiment. Toute une nuit où j'ai eu l'impression que mon univers s'effondrait. À l'aube, dans la cuisine, Vincent était là.
Salut ! T'es déjà levé ?
Ouais, j'ai mal dormi. Mais incomparablement mieux que toi, j'ai l'impression.
Oh, incomparablement plus, surtout. J'ai passé toute la nuit sur les documents de Luc. J'ai dû écouter une vingtaine d'interrogatoires et j'ai lu je sais pas combien de fiches. Regarde. On dirait des dossiers de la Stasi.
Le Delin qui est là, c'est le Delin Delin, le spécialiste des politiques européennes.
Et regarde, il y a aussi Mercier, Frégo, Razan, que des pontes. Je comprends pas ce que Luc foutait. On dirait un jeu de rôle idiot. Un truc de profs qui ont besoin de décompresser et qui se font leur petit délire à la Donjon et Dragon.
Origine sociale, parcours scolaire et professionnel, antécédents judiciaires, prise de parole publique, bibliographie, amis, relations, vie sentimentale, vie familiale, vie sexuelle. Appartenance associative, syndicale et politique, profit psychologique, casserole. C'est un grand maniaque en fait.
Des sociologues, des économistes, des historiens, des anthropologues. Tous au moins profs ou directeurs de recherche.
Et qui consentent aux interrogatoires. C'est ça le truc. Je vois qu'une possibilité, c'est un recrutement.
Mais pourquoi ? Pour quel genre d'activité t'as besoin de connaître le profil psychologique du candidat, ses antécédents judiciaires et sa vie sexuelle ?
Pour n'importe quoi qui exige de t'assurer que personne ne pourra faire chanter les gens que tu recrutes.
Mais tu vois, toi ? T'as une idée ?
Une idée, moi ? Jamais. Google est là pour ça. Viens. Avec ça, on va pas aller loin.
Qu'est-ce que ça donne ?
Je trouve un de spécial.
Y a pas un truc commun ? Un projet qui rassemblerait tous ces profs ? Une journée d'études ou des mélanges ?
Non. Alors, le seul truc, c'est que Luc a créé un groupe il y a une dizaine d'années avec Frégo et Razen. Mmh. Le GLSI. Groupe de lecture scientifique interdisciplinaire.
Jamais entendu parler ?
Non plus. Mais c'est tout ce que j'ai. Ils étaient censés lire des bouquins et en parler entre eux. Pas de table ronde, pas de colloque, juste un séminaire fermé.
Et les autres, ils y sont aussi ?
Aucune idée. Je trouve que le nom des fondateurs, pas celui des membres actuels. Si le groupe existe encore. La dernière annonce de réunion date d'il y a 3 ans.
Je veux savoir ce que foutait Luc. Je vais aller voir Razen. Ce matin-là, au square, Bruno Kwaranski était fatigué. Et Agnès Wims, déterminée. Agnès Wims est toujours déterminée.
Lequel vous prendriez ?
Pas.
Parmi ses enfants, lequel vous choisiriez comme couverture ?
Les bombes, c'est pas mon truc.
C'est quoi votre truc ?
J'ai 10 minutes, pas plus. Pourquoi vous m'avez fait venir ?
La mort de Luc nous oblige à accélérer le processus. Vous en êtes capable ?
Je l'avais prévenu. Le retour sur ce que j'ai envoyé en UE, système FI et autres, c'est pas moi qui gère. J'ai déjà eu pas mal de feedback, mais il m'en manque encore.
En clair ?
En clair, j'en sais rien. Mais je fais au mieux.
Le reste est prêt, on est d'accord. Je veux dire, toute l'architecture est au point.
Ce qui dépend de moi, oui. Après, chaque recrue a sa spécificité, nourrit le système.
Pas la peine de me faire un exposé.
Luc, vous avez informé de la façon dont j'aime payer ?
Il m'en a expliqué le principe.
Finalement, je ferai ça sur Francfort. Ils s'en rendront même pas compte.
Vous faites ça uniquement pour l'argent ?
À votre avis ?
Ça vous regarde. En revanche, j'exige d'être tenu au courant au jour le jour de vos avancées.
Vous pensez que vous avez besoin de me taper sur les doigts ?
Non. Moi, c'est la petite, là. Celle qui pleure.
Vous non plus, vous n'en avez pas. D'enfant. Bon, allez, salut.
À peu près à la même heure, François Boiron passait le coup de fil prévu à Ramonet.
La ligne est claire, monsieur.
Vous avez ce que je vous ai demandé ?
Je n'ai rien trouvé chez le prof, que de la paperasse sans intérêt. La liste des fichiers récents de l'ordinateur renvoyée à un disque externe, introuvable. Le coffre était vide.
Une explication ?
D'après ce que j'ai compris, l'appartement va être mis en vente rapidement par sa sœur, et elle a voulu vider les lieux au plus vite.
C'est elle qui a gardé les affaires ?
Non. Il semblerait qu'une étudiante soit venue débarrasser des cartons d'archives après la cérémonie.
Un nom, une adresse ?
J'attendais vos instructions pour enquêter davantage.
Allez-y. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais je veux savoir au plus vite qui nous a doublés.
Bien, monsieur. Je devrais pouvoir y arriver. J'ai la liste de l'ensemble des...
Votre cuisine ne me regarde pas. Il vous faut combien de temps ?
Quelques heures.
Je vous rappelle.
Dans un couloir du département, vers 11h, j'ai croisé Arnaud Razen, le plus grand sociologue du travail depuis... Je saurais même pas dire depuis qui.
Monsieur Razen, je peux vous parler ?
Mademoiselle ?
Vanetti, j'étais en thèse avec Luc Peyron.
Navré, c'est une perte pour nous tous.
Je voulais vous demander, j'ai cru comprendre qu'il s'occupait du GLSI.
Ce vieux machin ? Il vous en avait parlé ?
Oui, GLSI dont vous faites partie. Il semblait avoir des méthodes de recrutement assez, disons, particulières. Je dois vous avouer que ça m'a un peu étonnée.
Je ne sais pas de quoi vous parlez.
J'ai écouté ces interrogatoires.
Je ne devrais pas vous dire ça. Luc avait une tendance à la paranoïa, qui s'est aggravée avec le temps. Sa mort, malheureusement, est la preuve qu'il n'allait pas aussi bien que certains pouvaient le penser.
Luc détestait les théories du complot. Il disait qu'exagérer les connivences nous empêche de voir les liens réels, le énième masque des rapports de force...
Arrêtez de faire des palerons dans le texte, vous voulez bien ? Écoutez, vous m'interrogez sur les méthodes de Luc, je vous le dis. Le GLSI était son bébé et il ne voulait pas y laisser entrer n'importe qui. Parfois, ça le faisait dérailler. Mais ça fait des années que ce groupe n'existe plus.
Mais vous, ça vous dérangeait pas de répondre ?
Qui vous a dit que j'ai répondu ? Et répondu à quoi exactement ? On essayait de l'aider, de ne pas le froisser. Il était à quelques années de la retraite.
Mais vous avez évoqué, comment il s'appelle déjà ? Servan ! Servan et Bertrand, vous avez tout raconté de votre truc triangulaire pour intégrer un groupe de lecture ?
Tout ça ne vous regarde pas, pas du tout.
Et si je veux y entrer, dans ce groupe de lecture, à qui je dois m'adresser ? Moi aussi, hein, j'ai des cochonneries à raconter.
Peu avant midi, Willy est allé au secrétariat de la licence 3 du département de sociologie.
Bonjour. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai un problème avec mon groupe de TD.
Ouais.
Il y a la chargée TD de mon groupe qui vient de me dire que j'étais plus dans son groupe. Elle m'a dit que vous m'aviez déplacé de son groupe au groupe 12. Bah, le problème, c'est que le groupe 12 commence à 19h. Moi, à 19h, bah, je travaille. Hein.
C'est ennuyeux.
Ouais, et je comprends pas ce que j'ai fait. Hein. Pourquoi j'étais déplacé?
Sur Booking.
Quoi?
Sur Booking. Comme sur les vols long courrier, vous savez. Il y a plus de passagers qui réservent que de passagers qui prennent vraiment l'avion. Donc la compagnie accepte plus de réservations qu'il n'y a de place. Il y a 40 places par groupe de TD. On inscrit 55 étudiants à la rentrée en fonction de leur souhait horaire et on attend.
Vous attendez quoi?
De voir quels étudiants vont vraiment être présents. Combien vont préférer chercher un travail directement, partir 6 mois en Inde, rester au lit avec leur chat et une BD, s'inscrire dans une autre université, une autre discipline, une autre année.
Au lit avec leur chat et une BD, bah j'adorerais ça moi, mais j'ai pas de chat. Je comprends toujours pas pourquoi j'ai été déplacé.
Vous avez pas été déplacé, vous avez été transféré.
Dans ce cas, vous pouvez me retransférer vers un autre groupe. Je peux pas perdre mon travail.
C'est pas exactement nous qui décidons des transferts.
Ah bon, j'ai rien compris alors, c'est qui?
C'est Apogée.
Je peux lui parler?
Le logiciel Apogée.
Ah. Mais vous pouvez pas lui demander de me retransférer?
Apogée ne fait pas ce qu'on veut. Et quand c'est le cas, c'est une coïncidence. Il a été programmé, vous comprenez?
Mais si vous lui suggérez gentiment.
On voit que vous ne le connaissez pas. Hein.
Quelques minutes après, un Willy affolé m'est tombé dessus. J'étais avec Vincent au téléphone, et passablement sonné par l'entrevue avec Razen.
La Panetti.
Je peux pas m'arrêter comme ça, Vincent. Je veux savoir si je me suis plantée sur l'une des seules personnes que j'ai admirées dans ma vie.
Madame Vanetti.
Je suis au téléphone.
Je suis désolée, excusez-moi, pardon.
Je continue de chercher. Je vois pas d'autre solution. Attends, j'ai mon étudiant fétiche au bord des larmes. Je te rappelle, ok? Il faut que vous perdiez cette habitude de me tomber dessus dans les couloirs. Qu'est-ce qu'il y a encore?
J'ai un problème avec mon groupe de TD. Ils m'ont mis dans un groupe sur l'heure où je travaille.
Allez au secrétariat.
Mais j'en sors, ils peuvent rien y faire. Vous pouvez m'aider?
Je m'occupe pas des inscriptions pédagogiques.
Mais si vous alliez leur dire un mot pour moi.
Je suis navrée, monsieur Nasser, j'ai d'autres soucis aujourd'hui. Retournez au secrétariat et insistez.
Ok.
Lily? Qu'est-ce que tu fais là comme ça? T'as l'air complètement paumée.
J'ai une galère de TD, elle vient de m'envoyer paître.
Qui ça?
Vanetti. C'est la première fois qu'elle m'envoie bouler comme ça.
Oh, t'inquiète pas. Allez, viens, je t'offre un café.
Ah, laisse tomber.
Allez, 50 centimes à la machine, c'est ma tournée. Tu veux me vexer?
Cet après-midi-là se tenait un conseil d'administration.
Troisième point, la valorisation.
La présidente essayait de continuer à gérer son université, comme si la mort de Luc n'avait pas eu lieu.
Le semestre dernier par des enseignants-chercheurs de l'université n'a jamais été aussi élevé. Nous pouvons tous nous en féliciter, surtout dans un contexte budgétaire aussi morose. Toutefois, au vu de la qualité des intervenants, et je pense notamment au colloque modernité, nous ne pouvons que déplorer le faible écho qu'ont suscité ces rencontres au-delà de l'enceinte universitaire. Donc, je voudrais vous proposer quelques pistes. Ravie que Bruno Kwaranski ait pu nous rejoindre avec moins d'une heure de retard. Bon, tu veux bien t'asseoir sans bouleverser toute la réunion?
Désolé, de quoi parliez-vous?
De valorisation. Reprenons. Donc, comme je vous l'indiquais...
Vous avez déjà parlé de la mort de Luc?
On a respecté une minute de silence en début de réunion. Je peux continuer?
Attends. Luc est mort dans l'enceinte de l'université dans des circonstances d'une violence inouïe, et tout ce que ça mérite selon toi, c'est une minute de silence? 36 membres dans ce CA, et pas un n'a protesté? Bravo! Bravo!
Je te prierai de te calmer. Il n'est pas question de disserter en CA sur le suicide de Luc, ni de proférer des élucubrations sur les raisons de son geste.
Ah, mais je ne savais pas qu'on avait validé la thèse du suicide en haut lieu. Si la présidente le dit...
J'ai envoyé un mail circulaire indiquant que les enquêteurs avaient conclu au suicide. Garde donc tes théories paranoïaques pour toi, veux-tu?
Luc ne s'est pas suicidé, tu le sais aussi bien que moi.
Dehors.
Il ne faudrait surtout pas que l'université de madame la présidente s'agite ou s'inquiète. Surtout pas que les gens posent trop de questions. C'est qu'on a un quinquennat à respecter, alors la mémoire des collègues...
J'ai dit dehors!
À ce moment-là, tout ce que je voulais, c'est qu'on me dise que j'avais mal compris les fiches de Luc, les enregistrements. Qu'il y avait une explication simple, raisonnable. Quand Elfrigo m'a fait entrer dans son bureau, j'ai cru qu'elle serait cette personne.
Bonjour. Entrez. Mais je vous ai mis en cours, non?
Oui, en socio de la santé, en master. Et j'ai suivi votre séminaire sur les catégorisations médicales en première année de thèse.
Excellente formation.
Je viens vous voir au sujet de Luc Payron. J'étais en thèse avec lui.
Navré. Vous cherchez un nouveau directeur ? Sur quoi travaillez-vous ?
Non, je cherche des informations sur le GLSI. Je sais que vous en faisiez partie.
Et ?
J'ai trouvé dans les documents de Luc des fiches et des enregistrements assez perturbants. Des interrogatoires très intrusifs, violents parfois. J'essaie de comprendre.
Quoi ? Qu'essayez-vous de comprendre, mademoiselle ?
Luc. Qui il était vraiment ? Je l'ai toujours vu comme un homme exigeant et droit. Quelqu'un qui ne transigeait jamais sur le fond, mais qui savait aussi porter les gens. En tout cas, moi, il m'a porté. Et là, en écoutant ses fichiers, j'ai entendu quelqu'un de dur, d'insensible. Quelqu'un que je connais pas. Vous me direz rien.
Je vous dirai que vous avez mieux à faire. Allez, je vous raccompagne.
Et si je veux intégrer ce groupe ?
Il n'existe plus. Un conseil, concentrez-vous sur votre thèse, je vous sens dispersée. Au revoir, mademoiselle.
L'intervention de Bruno Kwaranski en CA avait fait des vagues. La réunion touchait à sa fin. Ayat a quasiment renversé une table pour être le premier à parler à la présidente.
Christine, je peux vous parler un instant ?
Le CA est élevé. Je suis assise depuis 5 heures, j'ai presque plus de voix et la dernière chose dont j'ai envie, c'est de parler. Que puis-je faire pour vous ?
Ce qu'a dit Bruno m'a troublé. Le geste de Payron semble, comment dire, si déplacé ici. Pourquoi se serait-il tué dans son bureau ? Je peux l'imaginer se faire un cocktail de comprimés et de whisky un soir chez lui, peut-être se jeter dans le vide.
Mais pas se mettre une balle dans la tête dans son bureau ?
Non. Je sais bien ce à quoi la police a conclu. Mais depuis la cérémonie, j'ai un sentiment désagréable qui ne passe pas. Évidemment, Bruno et ses excès sont toujours pénibles. Mais il a peut-être raison de nous interpeller. Quel est votre sentiment à vous ?
J'aurais besoin de quelques heures de paix pour le savoir, mais je ne les trouve jamais. Et honnêtement, Emmanuel, à cette heure-là, je ne sais plus. Je ne sais pas.
François Boiron avait donné rendez-vous à Delmas, le cyberflic, dans sa voiture.
Quel temps de merde !
Là, toi, je te propose l'abri confortable de ma voiture.
Tu as du nouveau ?
L'ensemble des archives de Luc Payron a été récupéré par une de ses étudiantes, une certaine Laura Vanetti. Je me suis renseigné. C'est assez fréquent qu'un doctorant récupère les archives d'un professeur à sa mort pour classer des documents et, éventuellement, s'occuper de publier certains textes. Elle est peut-être innocente.
Payron ne laissait rien au hasard.
C'est aussi ce que je pense.
Tu vas envoyer quelqu'un chez elle, j'imagine ?
Négatif. On a essayé de récupérer ces archives à la source chez Payron avant que quiconque les découvre. Mais maintenant, on est coincé. On ne peut pas risquer de faire la une avec le vol des archives du professeur Payron.
Quelle prudence. Je croyais qu'on était pressé.
J'ai un moyen plus officiel de mettre la main sur ces archives.
Ce serait quand même un comble de trouver dans de la paperasse ce qu'on n'arrive pas à repérer depuis des semaines sur le réseau.
Payron faisait partie d'une autre génération. C'est peut-être notre chance.
Et sinon, comment va notre ami Mercadon ?
Toujours persuadé qu'il va hériter de l'intérieur au prochain remaniement.
Le con.
Ce soir-là, Bruno Kwaranski, Arnaud Razen et Nel Frégo se sont vus dans un café très loin de la fac.
On aurait dû scanner tout de suite sur une version. Un truc à dire aux curieux. C'était couru que le GLSI ressortira un jour.
On ne pouvait pas deviner que Luc laisserait traîner tout ça. Ces docs auraient dû être détruits il y a longtemps.
Les universitaires ne jettent jamais rien. On était idiots de miser là-dessus.
On va pas refaire l'histoire, ces docs Vanetti les a. La question c'est de savoir si elle va laisser tomber ou si elle va aller voir les flics.
Ce serait la catastrophe.
Ça n'est pas du tout le moment qu'on les ait sur le dos.
Moi j'aimerais quand même bien savoir qui a commandité la mort de Luc. Je veux dire parmi les dizaines d'hypothèses plausibles.
On s'interrogera plus tard. À ce stade, on doit s'épargner les flics. La seule solution c'est de récupérer ces docs avant eux.
Je n'y connais rien en effraction, je te préviens.
On va faire autrement.
L'Apocalypse est notre chance. De Sylvie Coquart-Morel et Sophie Maurer. Troisième épisode. Avec Tiffaine Rabot-Fournier, Guillaume Marquet, Slimane Yafsa, Hélène Alexandridis, Benoît Guibert, Clarence Clavel, Jean-Claude Durand, François Hatt, Jean-Claude Dauphin, Pascal Collin, Sophie Doll, Fleur Bablet, Sandra Choquet, Lionel Robert, Bruno Abraham Kremer, Bruitage, Bertrand Amiel, conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière et Céline Geoffroy, prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré et Nicolas Depagraf, assistant à la réalisation, Félix Levaché, réalisation, Benjamin Habitant. Extrait du journal de Luc.
2 décembre. Encore un dîner dont j'aurais pu me dispenser. Je voulais faire plaisir à mon amie Catherine et lui montrer que j'étais à peu près capable de me fondre dans le paysage, de parler prix de l'immobilier et projet de vacances en prenant un air intéressé. Sa sœur était de passage avec son mari et Catherine craignait de ne rien trouver à leur dire, sauf si leur venait l'envie subite de parler de philosophie expérimentale, ce qui, étonnamment, ne s'est pas produit. Ce dîner l'inquiétait, et j'étais censé user de mes maigres compétences sociales pour faire diversion. Elle n'aurait pas pu choisir pire canasson. C'est ma faute. Je surestime toujours mon intérêt pour ce genre de situation. Une fois que j'y suis, je finis systématiquement par me demander ce que je fais là, par penser à tout ce que je devrais être en train d'écrire ou de lire, à tout ce sur quoi je devrais être en train de réfléchir. Et ce soir, comme chaque fois, est arrivé le moment où j'ai dû commencer à justifier ce que je fais, et en passant à justifier les choix de Catherine aux yeux de sa sœur et de son beau-frère. Ce moment est l'inverse d'une surprise. Quelque chose qui arrive mécaniquement aussitôt que je renonce à ma liberté affinitaire. Je sais parfaitement ce que mes amis ont en commun, qu'ils soient cuisiniers comme Géraud, kiné comme Estelle ou kiosquier comme Ahmed. C'est qu'aucun ne prend le monde pour acquis, qu'aucun ne considère qu'il s'agit d'un problème résolu, d'un déjà donné là, aux propriétés indiscutables et que tous le pensent comme une question. Une question qui exige qu'on s'attelle quotidiennement à la clarifier. Au lieu de ça, ce soir, la sœur de Catherine, Amélie, et son mari Ludovic, habitant du monde tel qu'il est, est perplexe qu'on puisse consacrer sa vie à des idées. Quelle tristesse. J'ai donné l'échange, un bon moment, conservé mon air de chat aussi longtemps que j'en étais capable, opiné avec entrain, à des phrases dont je saisissais à peine l'objet, puis j'ai fini par craquer. Catherine et moi nous sommes retrouvés sur le canapé à parler du beau livre de Fabiani sur Bourdieu, paru la semaine dernière. L'opprobre dont il est l'objet de la part de la clique des héritiers autoproclamés est d'une violence inouïe. Nous réfléchissions à la manière dont nous pouvions le soutenir et je me suis un peu animé. Et quand mon regard a de nouveau croisé celui des 2 invités, ils semblaient atterrés. Non seulement ça ne les intéressait pas, mais ils se sont bien évidemment mis en peine de m'expliquer pourquoi. Ils ne nous ont pas dit que Catherine et moi nous enculions les mouches, mais toutes les paraphrases y sont passées. Et de fil en aiguille, on en est venu à l'université, à sa place dans la société, à sa faillite, à... Ah, la faillite de l'université. Cette ode à la doxa made in Bercy. À ce qu'on devrait exiger d'elle, et le taux de chômage des jeunes, blablabla, et les profs qui n'ont jamais mis un pied dans l'entreprise, blablabla, et l'arrogance des intellectuels qui croient tout savoir mieux que tout le monde, blablabla. Tout ça avec une hargne polissée, mais bien réelle. La proposition d'un petit séjour de rééducation au service contrôle de gestion d'une PME n'a pas été formulée, mais elle leur trottait indubitablement dans la tête. Catherine s'est composé un visage indifférent, sans doute peu surprise par le tour pris par ce dîner. J'ai de mon côté tenté d'expliquer ce que nous faisons, de défendre la recherche une fois plus, de parler des étudiants, de ce que je crois leur apporter. Rien n'y a fait. Ils n'en démordaient pas. Il fallait désormais serrer la vis aux universitaires. J'ai pensé à l'état des bureaux, aux bientôt sous-payés, aux amphis dans lesquels les étudiants doivent garder leurs écharpes et leurs bonnets, aux salles de thé débondées, à mes collègues qui ne savent pas ce qu'est un week-end sans travailler, aux injonctions absurdes et contradictoires qu'on leur impose. Lis, écris, enseigne, organise des colloques, interviens dans des congrès, trouve tes propres financements, corrige tes copies, réponds à 83 mails dans la journée, dirige des thèses et des mémoires, sois poli avec le recteur, mais surtout n'oublie pas ton indice H. Saisi d'un doute, je leur ai demandé... Vous-même, vous êtes allé à l'université. Las, Amélie et Ludovic ont fait une grande école.